Cette semaine, j'avais partagé un sujet avec vous. J'avais partagé un sujet par rapport aux relations physiques dans le domaine du couple. Il y a des textes dans la Bible qui en parlent. Et je me suis autorisé à prendre les textes bibliques qui parlent des relations physiques dans le couple. Ça a été enregistré mardi soir. Cette semaine, j'avais à cœur, compte tenu quand même de situations qui se présentent dans l'Assemblée ou des questions que l'on me pose à laquelle il me semble que je dois répondre. Je le fais d'une manière collective pour aider certains à comprendre certaines choses. Et toute la semaine, j'ai eu à cœur de continuer à prêcher sur le couple. Bon, hier, c'est vrai, quand j'ai vu que la France entrait en guerre avec la Libye, etc., je me suis dit, est-ce que le sujet est approprié? Et puis, j'étais en train de prier hier soir après la réunion, et j'ai pensé à ce verset, le dernier verset du Nouveau Testament. Vous le connaissez, le dernier verset du Nouveau Testament? C'est un verset quand même étonnant. Vous savez que quand on a quelque chose d'important à dire, on le dit au début, enfin dans la Bible c'est comme ça, ou à la fin. Et le dernier verset de l'Ancien Testament est un verset qui nous parle de la famille. L'Ancien Testament, qu'est-ce que j'ai dit? Non, écoute, ne me contrariez pas, ne me contrariez pas, je ne me suis jamais trompé. C'est ce que mon épouse me dit depuis 30 ans. Malachie, chapitre 4, verset 6. Merci Isabelle de me confirmer. Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et, mieux encore, et le cœur des enfants à leurs pères. Ce n'est pas une promesse, ça? Vous réalisez? Comment termine l'Ancien Testament? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous voyons dans la parole de Dieu que le souci du Seigneur, c'est de bénir les familles. D'ailleurs, Dieu l'avait dit au travers d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, donc dans le Seigneur. Nous voulons la bénédiction sur nos familles. Et c'est vrai que j'ai failli changer de sujet parce que, vous voyez, un réflexe peut-être naturel pour adapter presque à l'enlèvement de l'Église, voyez, compte tenu de ce qui se passe, car quand même on peut soupçonner que l'enlèvement de l'Église est très proche avec ce qui se passe, franchement. Mais voilà, en priant, j'ai eu à cœur de continuer sur ce sujet, à savoir les couples, les familles, car dites-moi, Dieu veut que l'Église soit belle, mais l'Église elle est composée de familles. Et Dieu qui a dit qu'il voulait que le mariage soit honoré de tous, comment l'Église sera-t-elle bénie si les familles ne sont pas bénies? Vous pouvez m'expliquer? Est-ce que c'est possible, d'après vous, qu'une Église honore Dieu si elle n'honore pas le mariage? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. C'est complètement illogique. Alors, on va lire quelques textes, parce que par exemple, il est important, nous, on veut que l'Église soit une maison de prière. Est-ce que vous voulez que l'Église soit une maison de prière? Vous pouvez dire oui, parce que sinon, si vous ne voulez pas que l'Église soit une maison de prière, vous êtes en désaccord avec la volonté de Dieu. On va lire un texte, par exemple, dans Pierre. Dans Pierre, il y a toute une série d'exhortations. Dans 1 Pierre, il y a toute une série d'exhortations, et nous voyons dans ce... Dans la fin de toutes ces exhortations, chapitre 3, qu'il y a des conseils que Dieu donne aux épouses et que Dieu donne aux maris. Mais il n'y a pas que ces conseils-là, on va le voir. Il demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Il demande aux maris, verset 7, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il faut quand même lire ces choses, c'est le résultat de plusieurs conseils. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de Dieu, de la vie, pardon. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a encore d'autres conseils pour apprendre à bénir notre prochain. Donc c'est des conseils que l'on a sélectionnés, là, dans cet épître de Pierre, comme on va en lire quelques-uns dans l'épître aux Éphésiens, s'il vous plaît. Dans l'épître aux Éphésiens, il y a tout un tas de conseils. Alors nous, bien sûr, nous avons besoin des chapitres et des versets, je vais y revenir, parce que c'est M. Bollé qui nous enseigne en ce moment là-dessus. Éphésiens chapitre 5, On va lire le verset 2. On va prendre quelques versets pour vous montrer qu'il n'y a pas que les versets sur le couple. Verset 2. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son souci et son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Verset chapitre 6, verset 4. Voyez des conseils aux hommes, aux femmes, aux enfants. On peut lire le verset premier. Ouais. Enfants, obéissez à vos parents. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Notre frère M. Ollé, dans l'enseignement doctrinal en ce moment, nous enseigne qu'au départ, les épîtres n'étaient pas séparés en chapitres et en versets, et que la lettre faisait un tout. Et il ne faudrait pas que le découpage de la Bible nous fasse perdre de vue qu'il y a une pensée générale du début à la fin. Monsieur Ollé, est-ce que je rapporte bien ce que vous enseignez? Bon. Donc,
non, je sais, monsieur Ollé.
C'est une façon de vous honorer et vous vous taisez. Donc, dans la Bible, il y a un rapport étroit entre notre comportement social, familial, conjugal et notre vie spirituelle. On ne peut pas séparer les choses. Et c'est bien de l'apprendre dans la doctrine également. La vie spirituelle, ce n'est pas prier, chanter et aller à l'église. Il y a des croyants qui résument la vie spirituelle à ce qu'ils vivaient dans leur religion. Et c'est quand même dommage qu'on ait changé de religion, mais qu'on n'ait pas changé de compréhension de l'écriture. Ce qui prouve que beaucoup de croyants ne sont pas passés par la conversion. La vie spirituelle, c'est la capacité qui est donnée à l'homme de marcher selon Dieu. C'est ça la vie spirituelle. Parce que la majeure partie de notre temps, nous la passons où? Où vous la passez la majeure partie de votre temps? À l'église? Non, vous la passez avec les autres. Non? Au travail. Vous travaillez. Merci Seigneur, c'est une bénédiction. Vous la passez dans les relations humaines, dans les relations sociales, dans la famille. Vous la passez avec votre conjoint. Vous la passez avec vos parents. Vous la passez avec vos amis. Et c'est là, dans chacune de ces activités, si nous voyons si un homme est spirituel ou s'il ne l'est pas. Nous ne voyons pas si quelqu'un est spirituel à l'église. Je regrette, bien sûr, que si les gens étaient vrais, honnêtes, on pourrait dire, bon, tel il est à l'église, tel il est à la maison. C'est clair, normalement, on devrait être vrai partout, avec nos faiblesses et nos manquements, etc. Mais voilà, hélas, c'est pas toujours comme ça. C'est dans la vie de tous les jours que l'on voit si quelqu'un est spirituel. Jésus a dit, on ne prend pas une pièce de drap neuf pour la mettre sur un vieil habit, car ça produit une déchirure. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres quand même sur le couple pour voir un petit peu ce que les spécialistes en pensaient. Et je me suis rendu compte que certains de ces livres étaient comme des méthodes Mais moi, je crois qu'on ne peut pas séparer le couple de tout le reste. On y reviendra si on a le temps. Si on essaie de faire certaines choses, parce qu'il y a des conseils qu'on peut adresser au couple, si on essaie de faire certaines choses sans avoir été régénéré par l'œuvre de Dieu, moi je vais vous dire, c'est inutile. Est-ce que vous me suivez? Il faut comprendre ça dès le départ. Parce que moi, c'est vrai que ça m'intéresse la famille, parce que je sais que si les familles sont bénies, toute l'Église est bénie. S'il y a 200 familles dans une église et que les 200 familles sont remplies du Saint-Esprit, ça m'étonnerait que l'église ne soit pas bénie. Vous comprenez? Et il y a dans la Bible, bien sûr, des exhortations, des passages qui sont adressés aux patrons, aux employés, aux responsables d'église, etc., aux couples, à la vie de famille. Mais si on prend que certains versets au détriment de tout le reste, vous croyez que le couple il sera béni parce qu'on ferait que des études sur le couple et on dirait voilà, il faut faire comme ça, avec votre femme, avec votre mari, on ferait qu'une fixation sur le problème du couple. C'est pas ça qui réglera les problèmes. Il faut voir l'ensemble. C'est ce que nous apprenons en ce moment. Et si on ne s'occupait que d'un problème, c'est comme si on mettait une pièce de drap neuf sur un vieil habit. La vie chrétienne, ça fait partie d'un tout. C'est apprendre à bien réagir dans tout, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il faut que la prédication, bien sûr, elle soit pratique. Il y a des moments difficiles, oui ou non? Il y a des crises dans un couple. Est-ce qu'il peut y avoir une crise dans un couple? Quel couple n'a jamais eu de crise? Levez-vous, vous nous intéressez. Vous ne vous levez pas? Et c'est vrai, il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, « Ah, c'est pas la volonté de Dieu !» Quand il y a des gens, des fois, « Ah, j'aimerais que me marier !» Comme Rebecca a rencontré, qui c'est qu'elle a rencontré? Isaac. Est-ce que c'était conduit par Dieu le mariage d'Isaac et de Rebecca? Moi je trouve que c'est pas mal quand même. Mais quand vous voyez Rebecca et Isaac, on pourrait dire, non mais vous avez vu comment ça chauffait? Et il y a des couples, dès que ça chauffe, c'est pas la volonté de Dieu, il faut divorcer. C'est quand même triste d'en arriver là. C'est quand même triste. Et c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et tout ça, bon, ça, il faudra peut-être reprendre du temps pour l'expliquer. Mais la vie spirituelle, je le répète, c'est apprendre à bien réagir avec les conseils de Dieu. Dans la Bible, il y a plein de couples. Ça serait bien de les prendre un par un, ça prendrait énormément de temps, et voir comment ils se sont comportés. Adam et Ève, c'est le premier couple. Eux, ils ont été placés face à la tentation. La tentation est arrivée et ils ont chuté ensemble. Il n'y en a pas un qui est de l'autre. Vous avez vu? Ils ont rejeté la faute sur l'autre. Et quand Ève, elle a dit, voilà, elle a repoussé la faute sur le diable. Vous voyez, c'est facile de dire, c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, etc. Ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables. Il y a des choses. Dieu ne voulait pas, mais ils l'ont fait. Dieu avait dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est capable de comprendre le bien et le mal? Qui, franchement? Tout ce que l'on m'a fait pour le bien, quand on a inventé la poudre, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien d'inventer les explosifs pour extraire le minerai des carrières? Est-ce que c'était bien? Vous avez vu à quoi ça a été utilisé, la poudre? L'homme n'est pas capable de gérer le bien. Il n'y a que Dieu qui est capable. C'est pour ça qu'il faudrait pas, il faut jamais contester avec Dieu. Mais il a voulu essayer, et on sait ce que ça a donné. Enfin, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Lot, il était marié avec sa femme, bien sûr. Qu'est-ce qui manquait à Lot? Vous avez lu l'histoire de Lot? Eh bien, Lot, il marchait avec Tonton. Il suivait un homme qui marchait avec Dieu. Et ça, c'est vrai. Et c'est valable dans l'Église. Il y a des gens qui marchent avec Dieu et il y a des gens qui marchent avec les gens qui marchent avec Dieu. Vous me suivez? C'est pas vrai? Il y a des gens qui suivent les gens qui suivent Dieu. Mais ils ne suivent pas Dieu. Et quand il y a une séparation, on le voit ça dans les familles. Toute la famille marche avec Dieu, les enfants sont mutés dans une faculté, pop, les enfants ne suivent plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas Dieu. Ils suivaient les parents qui marchaient, eux, avec Dieu. Mais le problème, c'est quand après, les situations difficiles se présentent, Lot, il avait choisi pour le matérialisme, sa femme devait être d'accord, et au moment du jugement de Sodome, vous avez vu comment ça s'est terminé? Vous avez vu comment ça s'est terminé, hein? La femme de l'autre, elle a regardé en arrière. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle a vraiment rétrogradé. Elle a juste regardé en arrière. Comme quoi, il faut faire attention quand on commence à regretter le passé. On commence quelque part à se figer. Ça a été un drame pour les filles qui étaient mariées, parce qu'il avait 4 filles, il y en avait 2 qui étaient mariées, elles sont restées dans le jugement. Les 2 gendres ont cru que l'autre plaisantait. Vous savez, ça prouve qu'ils devaient trop rire. Moi, je crois qu'il y a un temps pour rire. Et combien ça fait du bien des fois de rire. Mais on ne rit jamais avec les choses de Dieu. C'est leur meilleur moyen d'être crédible dans notre témoignage. Ils se sont moqués de l'autre, et puis les 2 filles qui n'étaient pas mariées ont suivi le papa. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Elles ont fait boire leur père, elles ont commis l'inceste. Et quand on voit les 2 filles qui sont nées de ces 2 relations, ils ont empoisonné l'histoire d'Israël tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Job et sa femme, là c'est face à l'épreuve. Il y a beaucoup d'épreuves dans le couple. Est-ce qu'on n'a pas des épreuves dans le couple? Tous les couples ont des épreuves. La maladie, lorsque les parents vieillissent, le deuil, la perte de biens. Est-ce qu'on peut perdre des biens est-ce que ça peut arriver? Oui, est-ce qu'on peut perdre un enfant? Est-ce que ça peut arriver? La perte des enfants, la perte de la santé. Job a vécu des choses terribles. Et quand Job a été frappé, il y a eu une crise dans le couple. Sa femme lui a dit, mais écoute, le mieux, c'est que tu maudisses Dieu et même que tu meurs, ça sera vite réglé. Il y a eu une crise. Après, vous savez comment ça se termine, il y a eu la guérison, etc. Ils ont eu d'autres enfants. Comment elle est belle la fin de Job. Ananias et Saphira, ils s'entendent bien. Un couple qui s'entend bien. Vous avez lu l'histoire d'Ananias et Saphira? Ils s'entendent. Ils s'entendent même très bien. Ouais. Mais pour faire ce qui n'est pas bien. Vous savez, c'est important les conseils dans le couple. Quels sont les conseils que vous donnez à votre femme? Quels sont les conseils que vous donnez à votre mari? Ils auraient pu s'épargner bien des problèmes, ce couple-là. Prisca et Aquila, Paul parle d'eux. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Aïe, 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 ça c'est des couples. Vous vous rendez compte? C'est pas beau ça? Prisca, petite vieille. Aquila, ça veut dire l'aigle. Vous savez, aujourd'hui on a vite fait de taxer de petits vieux et de petites vieilles les gens qui sont droits dans le Seigneur. On confond, vous savez, la droiture et le légalisme. Mais béni soit Dieu pour les chrétiens, petits vieux, ça n'a rien à voir avec l'âge. Qui gardent les principes de la parole de Dieu, qui sont intègres dans leur choix, béni soit Dieu pour les petits vieux. Ouais. Il y a un rapport direct entre la vie spirituelle et la vie conjugale. Un couple chrétien qui voudrait réussir sa vie conjugale sans s'appliquer à sa vie spirituelle, il est perdu d'avance. Est-ce que vous me suivez? Il faut le comprendre ça. Parce que les couples, ils veulent être heureux. Mais des fois, ils ne bichonnent pas leur vie spirituelle. Après, je ne comprends pas, j'étais à tous les séminaires sur le couple. J'ai acheté tous les livres sur le couple, de tel docteur, de tel psychologue chrétien, etc. Et mon foyer, il bat de l'aile. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. L'épître aux Éphésiens se termine par des conseils donnés aux couples, aux enfants, aux parents, aux employés, aux employeurs. Mais tous les conseils que Dieu donne à cette catégorie ne peuvent être bénis que si on respecte tout ce qui a été écrit avant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, voilà, bon, mari, aimez vos femmes, bon, je vais aimer mon mari, je vais lui faire plaisir, etc. Mais si vous ne respectez pas tout le reste, vous n'y arriverez pas. Il faut prendre l'ensemble. Et c'est vrai qu'on apprend dans ces enseignements avec le frère Olé l'importance de tenir compte de tout le contexte. Et lisez l'Épître aux Éphésiens, lisez le premier chapitre qui nous parle de notre héritage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien? Quelle est notre position en Christ? Qu'est-ce que nous sommes vraiment? Le deuxième chapitre parle du salut par grâce. Comment on obtient le salut? Vous qui ne vous êtes pas levé tout à l'heure pour prendre le pain et le vin, lisez le chapitre 2 des Éphésiens, afin que vous compreniez qu'est-ce que c'est le salut par grâce, comment Jésus peut nous sauver. Le chapitre 3, l'apôtre Paul développe la notion de l'Église, quel est le mystère de Christ, quelle est l'épouse du Seigneur, ça on va le réaliser quand le Seigneur va nous enlever, etc., etc. Et après avoir expliqué ce qu'est le croyant, comment il est sauvé, ce qu'est l'Église, etc., il donne des conseils aux femmes et aux maris. Et le mariage, justement, représente le lien sacré qui unit l'Église au Christ. Et si le mariage n'est pas honoré, c'est ça. Est-ce que c'est important pour vous qui voulez vous marier? Il y a des jeunes ici qui veulent se marier. Est-ce que vous réalisez que c'est quelque chose, le mariage? On ne se marie pas pour se marier. Mais je vous assure, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe. Quand je vois les stupidités que j'entends, croyez-moi, si le mariage n'est pas honoré, et ça c'est quand même une question que chacun doit se poser, l'Église ne sera pas honorée. Et si l'Église n'est pas honorée, l'Église ne sera pas bénie. Est-ce que nous voulons que l'Église soit bénie? Eh oui. Et lorsque Paul parle aux hommes et aux femmes, il n'y a pas de la compétition. C'est ridicule. Que les païens en soient là, c'est normal, on ferait pareil. Les païens, ils sont dans les ténèbres, et lorsqu'ils parlent entre hommes et entre... Ils parlent des femmes, et que lorsque les femmes parlent des hommes, on est dans un cursus de compétition. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de rivalité dans le couple. L'homme et la femme se complètent. Vous êtes d'accord? Bon, il y a des choses que l'homme a et que la femme n'a pas. C'est vrai? Oui, et vice-versa. Merci, Madame de Lavrin. Et vice-versa. C'est vrai, il y a des choses que la femme a et que l'homme n'a pas. Il y a des capacités que la femme a et que l'homme n'a pas, etc., etc. La Bible ne parle pas en termes de comparaison. La Bible parle en termes de complémentarité. C'est dommage quand dans le couple, on en arrive à des rivalités. Vous ne croyez pas? Est-ce que franchement, vous ne trouvez pas que c'est dommage? Dans un couple chrétien. Oui, les hommes, ils sont comme ci, les femmes, elles sont comme ça. Je crois qu'il y a des grandes différences. Mais, dans l'Église, la grâce, elle ne peut pas introduire la rivalité dans un couple. La grâce, elle introduit la bénédiction. C'est le péché qui a introduit la rivalité. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché introduit toujours son venin. Et lorsqu'il y a de la rivalité dans un couple, je peux vous dire qu'il y a tout sauf la grâce de Dieu. La rivalité, parce qu'on veut niveler les valeurs. Et c'est vrai que c'est à partir de ce verset qui m'a fait réagir lorsqu'une chrétienne est venue me trouver en me disant, mais lorsque Dieu dit, après la chute, à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Alors il y a des chrétiennes qui sont venues me voir pour me dire, mais écoutez, mais ce n'est pas normal que j'ai des désirs pour mon mari. Mais sérieusement. Mais j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Dans la parole de Dieu, c'est tout à fait normal qu'une femme désire son mari, qu'un mari désire sa femme. On en a parlé mardi. Le cantique des cantiques commence avec un verset, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Je veux dire, bon, je veux bien spiritualiser. Mais enfin, je veux spiritualiser. Mais pour moi, c'est clair. Cette femme, elle exprime qu'elle désire les baisers de son mari. Et après même, elle connaît les désirs de son mari. Elle sait que lui aussi, il est dans le même cas de figure. Alors, tes désirs se porteront vers ton mari, ça veut dire que, à cause du péché, la femme veut prendre la place de l'homme. La femme veut jouer le rôle de l'homme. La femme, elle veut se masculiniser. C'est la dégénérescence de notre société, et l'inverse aussi. Et l'homme, il devient de plus en plus mou. Il y a 8 jours, il y avait une publicité, là, sur ses déshabits. Il y avait un homme, il était comme ça. Sans, vous voyez, ça fait pitié, quoi. C'est sûr, on est loin de Gabin et de Ventura et de Schwarzy et de Rambo. L'homme aujourd'hui, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit mou. Ça vous fait rire, mais je vous assure. Je le résume pour faire vite. Mais le problème, il est là. Parce que dans un foyer, si un homme ou si une femme ne veut pas répondre aux besoins physiques de son conjoint, eh bien, il ne fallait pas se marier. J'ai donné des exemples mardi. Ce n'est pas normal qu'une femme se refuse à son mari. Ce n'est pas normal qu'un mari se refuse à sa femme. Il fallait le calculer, ça. Et les jeunes, il vous faut y penser. Parce qu'il y a des gens, ils spiritualisent tellement tout qu'on en arrive à des hérésies. Il n'y a pas de péché sexuel dans le couple marié. La sexualité, ce n'est pas un péché. Oui, en dehors du mariage. Oui, on ne va pas y revenir, je l'ai dit mardi. Et il faut l'expliquer, ça. C'est tout à fait normal d'avoir des désirs pour son conjoint. Et ne vous culpabilisez pas, soit dans un sens, soit dans l'autre. Il faut le dire, mes frères et sœurs. On en arrive à des aberrations. Je citais l'exemple de cette dame que j'ai connue, qui, elle n'a pas voulu avoir de relation avec son mari, elle n'en a jamais eu. Et elle était étonnée qu'un mois après, il soit parti. C'est pas normal. S'il avait été spirituel, il serait resté avec moi parce que moi j'étais à fond dans la sanctification. Et ça n'a rien à voir avec la sanctification. Mais c'est triste quand même d'en arriver là. C'est vrai cette histoire. Cette femme me l'a dit. J'ai dit, mais il ne fallait pas vous marier. Ah bon, vous croyez? Mais oui. Vous voyez, on en arrive à des aberrations. Et c'est quand même pas intelligent. Et c'est pour ça qu'il faut quand même, lire la parole de Dieu et comprendre que lorsque Dieu dit tes désirs se porteront vers ton mari, il faut que ça nous mette tous d'équerre et qu'on comprenne bien que l'un n'a pas joué le rôle de l'autre, que la femme, ça doit être une femme, que la mère, ça doit être la mère, que le mari, ça doit être le mari, etc., etc., etc. Et souvent, on a utilisé des textes n'importe comment et le résultat, c'est qu'on a fait du mal et que le témoignage a été lamentable. Voilà, il y a des textes dans la Bible que l'on doit accepter, on ne doit pas les imposer aux autres, ça s'appelle l'intégrisme, quand on oblige les autres à faire quelque chose, ça commence comme ça, l'intégrisme. Quand on oblige les autres à faire des choses qu'ils n'ont pas à faire, ou pas. Est-ce qu'une femme qui est chrétienne, elle peut par exemple obliger son mari à prier? Vous voyez, et on en arrive à des choses comme ça, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas quand même le but de la prédication de ce matin. Et il faut faire attention, mes frères et sœurs. Parce que d'un côté, alors si on voit l'intégrisme dans le sens d'intégrer certaines valeurs, ça c'est bien. Mais quand on sait imposer certaines choses, là ça ne va pas. Alors d'un côté, il y a cette espèce de légalisme qui rentre dans les églises. De l'autre côté, il y a cette espèce de libéralisme, il faut laisser faire. La société, c'est comme ça, il ne faut rien dire. Il faut pas en parler, ça sert à rien, etc., etc. Ça, c'est cet amour mou dont je vous parlais tout à l'heure, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est patient, etc., on ne fait rien. Alors que vous voyez, on prend un verset et on l'exploite pour justifier des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Un chrétien, un vrai chrétien, il recherche l'équilibre pour donner un bon témoignage, oui ou non ? Est-ce que c'est important pour vous de rendre un bon témoignage ? Eh ouais. Parce que moi, je crois que la foi, la vraie foi, elle donne de l'équilibre, elle stabilise, elle rend solide. Lorsque le Seigneur, il nous donne sa parole, il nous éclaire, il ne nous lave pas le cerveau, il ne nous lave que le cœur. Et ce n'est pas un lavage de cerveau, l'Évangile. Le Seigneur, il nous donne de réfléchir. Et c'est important de discuter dans le couple. Je parlais du cantique des cantiques, mais j'avais commencé avec cette affaire de désir. Les désirs sont exprimés. Parce que Paul parle aux chrétiens, aux maris, il parle aux femmes, et il parle bien sûr, il fait ressortir le défaut de chacun. Tiens, quel est le défaut principal de l'homme? Attendez avant de répondre trop vite. Quel est le défaut majeur de l'homme? C'est des réponses, hein, c'est pas la vérité forcément. Hein? Quel est le conseil que Dieu donne aux hommes? Marie, c'est sévère. Hein? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il en prend soin. L'homme a quelques défauts et il a tendance à ne pas voir les besoins de sa femme. Ne nous le reprochez pas. Madame Freul, vous avez quelque chose? Est-ce qu'on est obligé de voir tous les besoins? Eh non. J'ai remarqué que c'est vraiment l'homme qui répond à la femme. Là, mais écoutez, on peut le prendre d'une manière... d'une manière détendue. Je crois que c'est bien. Mais il faut le dire. D'accord? La femme, elle aimerait que ses besoins soient devinés. Hein? Parce qu'il y a les besoins qu'on exprime, on peut exprimer un besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est une question que je pose aux sœurs. Est-ce que vous exprimez tous vos besoins? Alors, il y a peut-être un autre problème derrière. Mais... il y a les besoins exprimés, il y a les besoins non exprimés. Lesquels sont les plus importants? Ouais. L'homme qui parfois est égoïste, est-ce que c'est vrai que l'homme est égoïste parfois? Ne t'inquiétez pas, on arrive aux femmes. Hein. L'homme a tendance à être égoïste. Il rentre du travail, il a besoin de souffler, il a besoin de se taire, etc. Mais quand même Dieu est là et Dieu dit « aimez votre femme ». Et c'est vrai que nous, les hommes, sérieusement, nous devrions développer le dialogue. Parce que moi, je crois que tout passe par une véritable communication. C'est bien de prier Dieu. C'est bien la communion avec Dieu. Mais je crois qu'aussi, il faut la communion avec son épouse. Il y a des couples qui ne parlent plus. Et il ne faut pas être s'étonner que les situations s'aggravent. Alors vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Je crois, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour, dans des situations où on le ressent, jeûner, je le suis. Mais moi j'ai vu des gens qui jeûnaient, j'aurais dit, écoutez, vous feriez mieux d'aller demander pardon à votre mari que de jeûner pour jeûner. Alors c'est vrai qu'il y a des paroles qui font mal, mais il y a des silences qui font mal aussi. Et que c'est, il faut faire attention à ce que l'on dit, mais il faut faire attention aussi parce qu'on n'a pas dit certaines choses. T'avais qu'à me le dire. T'avais qu'à me le dire. Mais moi, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il y a une question d'honnêteté dans le couple. Et de pouvoir dire, écoute, voilà mes désirs. Et quand vous lisez, moi, je vous assure, quand j'ai vu ces problèmes, je me suis dit, écoute, tu vas lire le Cantique des Cantiques. Et tu ne vas pas le lire au deuxième degré. Tu vas le lire au premier degré. Parce qu'il y a deux degrés dans ce livre, qu'on le veuille ou non. Il y a le degré le plus terre-à-terre de la relation de l'homme et la femme, et puis après il y a le degré spirituel, etc. Mais moi quand j'ai lu ce livre au premier degré, je me suis dit, mais il faut que les besoins physiques et les autres besoins soient également exprimés. Et nous les maris, bien sûr que nous sommes des chrétiens, et nous voulons aimer l'épouse que Dieu nous a donnée. Et il faut pour cela que les besoins soient exprimés, parce que quand même, la façon dont le Seigneur nous demande d'aimer nos épouses, c'est quand même quelque chose de sérieux, mes frères, vous êtes d'accord avec moi? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'Église, ce n'est pas l'objet du Seigneur. L'Église, ce n'est pas un objet pour Jésus. Dieu prend soin de l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit son Église et il la nourrit à tous les niveaux. C'est un encouragement à ne pas être égoïste. Cette parole de Paul aux hommes nous prouve qu'il ne faut pas être égoïste. C'est un problème, les frères, il faut que nous le réglions. Si nous sommes égoïstes. Et d'ailleurs, je dis toujours aux jeunes, parce que j'ai tout le temps vu des catastrophes. En plus, on le voit des fois, des jeunes, on le sait par les parents. Il ne fait rien, il ne nous aide jamais, il est égoïste. Moi, je dis à ces jeunes filles, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas avec un égoïste. Et celles qui ne m'ont pas écouté, elles le regrettent. Quand on est égoïste, on ne se marie pas. Si on n'est pas prêt à se donner, on ne se marie pas. C'est comme ça. Si vous n'aimez pas vous donner, je vous en supplie, ne vous mariez pas. C'est clair, hein? Ce n'est pas un conseil qui vient, je crois, de moi. Ça vous préservera certainement de bien des douleurs. Il dit au père, n'irritez pas les enfants. Il ne le dit pas aux femmes, ça, aux mamans. Pourquoi? Eh bien, parce que le père, à cause du manque de sensibilité, peut irriter les enfants, alors qu'une mère est plus sensible. Ça ne veut pas dire que les mères, des fois, n'irritent pas les enfants non plus. Mais on peut irriter avec des ordres injustes. Est-ce qu'un père peut donner des ordres injustes à son enfant? Ou inintelligent? Oui, ça arrive. Femme, soyez soumise. Alors. Alors, qu'est-ce que c'est la soumission? Est-ce que c'est l'esclavage? Certains hommes utilise ce verset, alors que je crois que ces versets, chacun devrait les utiliser pour soi, que les maris s'occupent des versets qui les concernent, et que les femmes s'occupent des versets qui les concernent. Et les choses changeraient. Alors la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Les femmes, elles sont les égales à l'homme. Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. Et sur certains points, les femmes sont plus compétentes que les hommes. Parce que les hommes ont utilisé un verset qu'on a lu tout à l'heure, comme quoi la femme était un sexe plus faible. Voilà. Alors, est-ce que c'est au sens intellectuel? Est-ce que c'est au sens spirituel? Est-ce que c'est au sens psychologique? Est-ce que vous croyez que les femmes sont plus faibles intellectuellement, psychologiquement, spirituellement? Non, c'est au sens physique. C'est prouvé que physiquement, l'homme est beaucoup plus fort que l'épouse, la femme. Ben ça, c'est comme ça. Certainement pour aider justement mieux sa femme, pour la protéger. La force que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la dominer. La force, si Dieu nous en donne un peu plus, c'est qu'on en a besoin. C'est pour aider. Et quand on voit qu'à tous les 3 jours en France, il y a une femme qui meurt, frappée par son mari, ça fait pitié, hein. Un homme, une femme qui se sont aimés, qui ont fait des gosses ensemble et qui se tuent. Vous voyez le péché? Combien c'est terrible. Et je pense que c'est au sens physique, cette faiblesse. D'ailleurs, il parle du vase. Le vase, c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Oui. Alors la soumission, c'est qu'une femme, elle est sous son mari. Soumettez-vous, c'est mal traduit en plus, je le crois. La femme, elle est dessous son mari. Et elle le soutient. Elle est là pour l'aider. C'est pas facile d'aider. Vous savez que c'est plus difficile d'aider que de diriger. Est-ce que vous le savez? C'est plus facile de diriger. Mais non, c'est plus difficile d'aider, oui, pardon. C'est pas facile d'écouter quelqu'un. Hein, c'est vrai? Vous savez, si on veut rester un bon dirigeant, il faut savoir écouter les conseils. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les versets. C'est pour ça qu'il est dit, soumettez-vous les uns aux autres. On voit bien que la soumission, ce n'est pas que la femme qui doit se soumettre à son mari. Elle le soutient, je suis là pour t'aider. Mes sœurs, c'est vrai que nous les hommes, nous sommes plus égoïstes. Que nous ne voyons pas vos besoins. Alors, communiquez-les vos besoins. Mais aidez-nous. C'est sérieux. Je parle au nom de tous les hommes. Aidez-nous. Donnez-nous des conseils. Et nous, soyons intelligents, écoutons les conseils. Mais si, moi, je ne pense pas au couple. Moi, je pense au réveil. Je pense à l'avancement du royaume de Dieu. Bien sûr que Dieu veut que les couples soient bénis. Mais quel que soit le rôle que Dieu confie à un homme, quel que soit le rôle que confie à une femme, il faut que nous nous soumettions les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Si nous ne nous soumettons pas, si nous ne nous écoutons pas, si nous ne nous pardonnons pas, est-ce que dans un couple, il y a besoin de pardon? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a besoin dans un couple? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Dites-moi, faites-moi une liste. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Que de pardon? D'amour? Ah ouais. De respect? D'écoute? D'amitié? Est-ce qu'il y a besoin d'amitié? Hein? De partage, etc. On pourrait faire la liste de ce qu'il faut qu'il y ait et il faudrait faire la liste de ce qu'il faut qu'il n'y ait pas. C'est pas vrai? La soumission. Je suis avec mon mari et je l'aide et je le conseille. Mes sœurs, est-ce que vous aimez conseiller vos maris? Après avoir réfléchi, pas des règlements de compte. Si c'est dans le règlement de compte, c'est pas la peine. C'est comme je parlais des relations conjugales, que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Si les relations physiques, c'est un devoir, bien on est mal parti. Hein. Mais c'est quand même un devoir. Eh ouais. Tout ça, c'est sérieux. L'aide, c'est suggérer la bonne idée. Mon mari, il a besoin de ce conseil. Plutôt que de l'accabler, peut-être tu devrais te reposer. On peut demander au Seigneur qui nous aide. Seigneur, donne-moi les conseils pour que je continue à aimer mon mari. Donne-moi la pensée pour que je puisse aimer ma femme. Qu'est-ce que c'est qui lui ferait plaisir? Quels sont tes désirs? Exprime-les. Je t'écouterai, parce que là aussi. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de revoir l'emploi du temps et de passer du temps de qualité avec son conjoint? Plutôt que de tout zapper, d'être tout le temps la télé allumée, tout le temps en train à droite, à gauche, on ne se rencontre plus, on se croise. Mon mari, je le croise. Ah bon? Eh ouais. Je le croise. On bosse comme des malades, il faut payer la baraque. Ne riez pas, ne riez pas. Combien de maisons ont détruit des foyers pour avoir un peu plus. Le bonheur. C'est d'avoir un couple béni. Parce que l'Église, elle est enrichie lorsque les couples sont bénis. Les maris, ils aident leurs femmes. Les femmes, elles aident leurs maris. Et nous devrions dire tout ça pour nos enfants, pour le témoignage dans l'Église. Moi, je me réjouis. On a dans l'Église quelques couples qui ont 50 ans de mariage. Moi, je me régale de les voir. Quel témoignage. Tout le temps là, la main dans la main. Jamais un mot plus haut que l'autre. Un respect. Là, on parle du respect. C'est beau de voir un homme qui est marié depuis 50 ans, qui respecte sa femme. Les jeunes, et c'est ça qu'ils ont besoin de voir. Il y a certains couples, on devrait quand même savoir se remettre à genoux. Parce que vous savez, ce que je voulais vous expliquer, parce que je vois que le retourne, c'est qu'en vérité, on ne peut pas séparer le spirituel du familial. On ne peut pas le séparer. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous voulons voir le cœur des pères? vers les enfants, le cœur des enfants. Parce que vous avez vu la catastrophe qui peut arriver. Quand les familles ne sont pas bénies, qu'est-ce qu'il ajoute le Seigneur ? De peur que je ne vienne frapper le pays. Vous savez, quand les familles ne sont pas bénies, il ne parle pas de l'Église, il parle des familles. Ce qui prouve bien qu'il faut veiller sur la famille, sur le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit ? C'est parler en langue ? Oui. Mais moi je crois que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur. Tout ça, ça devrait, dans un couple, ça devrait rejaillir. Et c'est vrai qu'on a vu des couples, ça parlait en langue. Pour parler en langue, ils parlaient en langue. Mais on apprend 3 mois après, la catastrophe. Comme quoi, voyez, on a tout séparé. On a tout séparé. Et je vous exhorte, mes frères, je m'exhorte à faire des efforts pour être un meilleur mari, un meilleur père. Et vous, mes sœurs, faites des efforts joyeusement. Mon mari, il faut que je l'aide. Il est fatigué en ce moment. Ou il n'a pas compris ça. Il faut que je l'aide. Il faut qu'on discute. Et plutôt que de regarder la télé, eh bien, on va prendre peut-être une tisane et on va discuter. Et on va prier. Quand j'entends un couple qui me dit « Moi, je ne prie plus avec ma femme. C'est fini. On ne s'entend plus. » Que c'est triste. Parce que moi, je crois quand même que dans la prière, le Seigneur, il peut nous faire faire de nouvelles expériences. Est-ce que vous priez avec votre femme ? Est-ce que vous priez avec votre mari ? Il ne vous le demande pas ? Eh bien, demandez-le lui. Demandez-le lui. Chérie, on prie ce soir. On prie pour les enfants. On prie pour notre famille. On prie pour les âmes perdues. Vous croyez, quand on commence à rechercher le royaume de Dieu, c'est bizarre comme le reste, des fois, ça suit. Alors, c'était un peu pêle-mêle, tout ce que je vous ai partagé. Mais je crois qu'il faudra revenir sur ce sujet. Parce que si l'Église, si les familles sont bénies, l'Église sera bénie. Et nos enfants reviendront. Alléluia. Il ramènera nos enfants. Vous ne voulez pas voir tous les enfants venir ? Vous croyez que Dieu peut ramener tous les enfants de l'Église ? C'est une promesse. C'est une promesse. Alors on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce. Mes sœurs, sentez-vous concernées par les versets qui vous concernent. Ne vous dites pas à votre mari, tu vois ce qu'il a dit, tu as vu ce qu'il a dit, monsieur Gou ? Hein ? Ne commencez pas comme ça. Ne commencez pas comme ça. Tenez-vous devant le Seigneur, mes sœurs. Mes frères, tenons-nous devant le Seigneur. Et disons, Seigneur, comment être un meilleur mari ? Je veux parler avec ma femme, peut-être je vais l'inviter au resto, si vous pouvez, ou c'est pas ça le plus important, mais des moments de qualité tout à nouveau. Oui, des moments de qualité. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir un moment de qualité. Mes frères, Dieu veut bénir. Vous savez, on peut faire des réunions d'évangélisation et j'y tiens. On peut faire des réunions d'édification et c'est formidable. Mais on ne peut pas séparer. C'est vrai qu'on en parlait avec les frères hier. On a les versets, c'est extraordinaire d'avoir séparé les épîtres en chapitres et les chapitres en versets. Mais ça nous a joué des tours. Et je voudrais, mes frères, qu'on prie. Si on avait vraiment plus de temps, on prendrait du temps pour prier pour les couples. Peut-être que le Saint-Esprit me conduira à faire des réunions, peut-être que pour les couples, j'en sais rien. Ça serait peut-être utile. Priez pour ça. Mais combien je voudrais que là, qu'on est sous le regard du Seigneur en disant « Ah, ma femme, je veux être ce fiancé que j'étais au début. » On peut redevenir ce qu'on était au début. Quand la Bible parle du premier amour, ça peut être aussi dans le couple. Ah, l'épouse que tu m'as donnée, Seigneur. Ah, le mari que tu m'as donné. Je t'avais prié et Dieu vous l'a donné. Alors on va retrouver ça. On retrouvera la prière ensemble, le dialogue, etc. Je crois, mes frères et sœurs, que si les couples sont bénis, l'Église sera vraiment béni. On va prier, on va tous ensemble prier. Je vais demander à M. Olé de venir à ma place. Je voudrais qu'il prie pour tous les couples, et tous les futurs couples, et tous les jeunes. Les jeunes qui voulaient vous marier, si vous êtes égoïste, soyez délivrés de l'égoïsme. Et Dieu vous donnera peut-être une femme. Ou mes sœurs, si vous êtes égoïste, Dieu vous donnera un mari. Mais si vous êtes égoïste, votre couple ne marchera pas. C'est obligé, c'est un principe. C'est comme une voiture sans essence, c'est pareil. Alors, prions, soyons sérieux, dites amen à la prière de M. Olé. Parce que je crois que Dieu peut l'exaucer de suite d'ailleurs. On l'a entendu ce matin, il y a des prières qui ne seront exaucées qu'à l'enlèvement de l'église après. Mais il y a des prières que Dieu peut exaucer de suite parce qu'il est Il est intéressé, le Seigneur, à bénir les familles. Vous êtes d'accord de prier avec Monsieur Olé? Prions ensemble, restons recueillis. Monsieur Olé, s'il vous plaît, venez à ma place.
Seigneur, c'est avec humilité, avec faiblesse, le sentiment de notre faiblesse que nous approchons de toi, sachant que tu as pleine autorité sur chacun d'entre nous. Que nous soyons croyants, que nous soyons certains ne soient pas. Seigneur, tu as autorité sur chacun, sur notre vie, sur notre comportement, dans tous les domaines. Et Seigneur, nous voulons te remercier de ce que les problèmes pratiques de la vie, en famille, en couple, ont pu être évoqués, et que le conseil de ta parole a pu être mis en avant, Seigneur, car en effet, nous avons besoin de percevoir dans nos cœurs ta parole, le message que tu veux adresser depuis tant de générations aux hommes, mais qui nous concerne maintenant, personnellement, chacun. Te prions, Seigneur, de nous donner des oreilles attentives, spirituellement, pour percevoir le conseil qui nous concerne chacun personnellement, et que nous puissions ainsi faire un pas décisif, une orientation décisive qui va te permettre de poursuivre une œuvre bénie dans chacune de nos vies, dans chacun de nos couples, dans chacune de nos familles. Seigneur, que ta paix vienne en abondance dans les cœurs et dans toutes les familles, et que la joie de ton esprit aussi nous donne ce dynamisme spirituel qui nous permettra d'aller en avant. Car Seigneur, c'est toi tu veux nous entraîner à aller plus loin avec toi. Nous te demandons, Seigneur, en effet, que ta parole puisse s'enraciner dans nos cœurs, puisse rafraîchir notre pensée, notre compréhension, notre intelligence, nos sentiments, Seigneur, que tout soit vraiment remis au propre, remis à neuf, parce que ton esprit est efficace et nous voulons lui permettre de s'accomplir, d'accomplir son œuvre pleinement dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales et aussi dans notre assemblée, dans nos assemblées. Seigneur, nous savons que ton esprit est à l'œuvre et nous voulons que tu l'intensifies, cette action bénie que tu as mise en place. Glorifie ton nom, Seigneur, et que la joie de ton esprit remplisse nos cœurs, la paix de ton esprit remplisse nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.